Euradio Nantes et le Centre culturel franco-allemand présentent Hallo Nantes.
Euradio Nantes und das deutsch-französische Kulturzentrum präsentieren Hallo Nantes.
Vous êtes donc sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. Mon nom est Martin Krechting, je suis directeur du centre et avec moi aujourd'hui sur le plateau, trois de mes collègues du Centre culturel. À ma gauche directement, Laura Zella, jeune ambassadrice de Saarbrück à Nantes. Bonjour Laura.
Bonjour.
Ensuite, au milieu du plateau, Nathalie Ostendorf, volontaire culturelle franco-allemande chez nous au CCFA. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Et juste en face de moi, Eva Fuchs, volontaire écologique franco-allemande au CCFA. Bonjour Eva.
Bonjour.
Aujourd'hui, alors, les trois collègues aujourd'hui sont sur le plateau puisqu'on va vous parler d'un programme franco-allemand qui a pris beaucoup d'ampleur pendant ces dernières années. C'est le volontariat franco-allemand en service civique. Il se trouve que à la fois Laura, Nathalie et Eva sont en train de faire un volontariat franco-allemand dans différents domaines. On va vous en parler dans le détail de ces volontariats aujourd'hui, puisque c'est la période de candidature pour effectuer un volontariat en Allemagne ou en France à partir de la rentrée 2019. Et on va vous expliquer en quoi ça consiste. Pour commencer avec cela, donc l'instauration généralisée du service civique en France est maintenant effective depuis quelques années. Et depuis cette date, avec l'aide de l'OFAGE, ont été instaurées différentes formes du volontariat franco-allemand en service civique. Alors, un service civique, vous le connaissez, c'est un programme qui s'adresse aux personnes, aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Par contre, ça prend une forme un peu particulière pour le volontariat franco-allemand et peut-être qu'on peut en parler tout d'abord avec toi, Laura, pour demander mais qu'est-ce que c'est, à qui ça se destine ce volontariat franco-allemand?
Comme tu as déjà dit, en fait, c'est pour les jeunes de 18 à 25 ans, ce volontariat franco-allemand, et on peut l'effectuer dans les domaines différents, comme par exemple la culture, le sport, l'écologie, le social. Mais l'OFAGE propose aussi dans le domaine de l'enseignement supérieur et aussi l'enseignement à des écoles. Et ça, ce sont des différentes dispositions qui sont mises en place par l'OFAGE.
Alors maintenant, tu as déjà rappelé l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, puisque l'OFAGE est effectivement l'organisme qui encadre tous ces programmes de volontariat. Et pour vous, ça consiste notamment aussi par des formations tout au long de l'année qui vous permettent de retrouver les différents volontaires du côté français aussi bien que du côté allemand. Et donc, qui évidemment est là aussi pour souligner le côté interculturel de ce volontariat tout en étant dans un des deux pays. Il y a les retrouvailles organisées entre les différents volontaires quatre fois dans l'année. Alors, donc on a dit, ou tu viens de dire que contrairement au service civique qui se destine aux jeunes de 16 à 25 ans, là on est sur un dispositif pour les 18 à 25 ans, et il y a différents domaines dans lesquels on peut s'investir en tant que volontaire. Une autre question qui se pose, et là c'est peut-être aussi quelque chose, on peut en parler avec Nathalie, on constate souvent des différences entre les jeunes Français et les jeunes Allemands par rapport au moment qu'ils choisissent pour faire ce volontariat. On a l'habitude de dire que pour les jeunes Allemands, c'est directement après le bac. Pour les jeunes Français, c'est parfois déjà pendant les études ou après les études. Qu'est-ce qu'il y en est, Nathalie, en fait? Quel est le moment idéal ou pas idéal, en fait, pour faire un volontariat franco-allemand en sa vie civique?
Bah, je dirais pas qu'il y a vraiment un moment idéal, parce que chaque moment entre 18 et 25 ans pourrait être idéal pour chaque personne. Pour moi, c'était après le bac, parce que justement, je voulais faire une année de césure, mais ça peut aussi être après les études ou après la licence ou après le master même. Et en France, c'est assez spécial parce qu'ici, quand on pose sa candidature, c'est pas possible. On peut cocher qu'on veut faire une année de césure et comme ça, on peut déjà poser sa candidature pour les études de l'année après. Et on a le statut d'étudiant pendant qu'on fait son année de service civique ou de volontariat franco-allemand. En Allemagne, c'est pas vraiment comme ça, mais on a aussi un statut spécial dans les deux pays. C'est un statut de service civique aussi qui a droit au même avantage que le statut d'étudiant.
Mmh. Très bien, donc ça veut dire que... Est-ce que toi, tu pourrais peut-être revenir de manière plus précise encore sur tes motivations qui t'ont poussé, toi, à dire après le bac... je choisis cette voie justement d'un service civique à l'international avant de commencer les études?
Bah déjà, la raison pour laquelle je voulais faire une année de césure, c'est de prendre une pause après l'école parce que j'avais pas envie de me lancer tout de suite dans mes études. J'en avais assez de la théorie pour l'instant. Et je voulais réfléchir et prendre des récup pour voir ce que je veux faire après, ce que je veux faire dans ma vie. Et là, c'est bien de faire quelque chose qui me donne un peu d'expérience directe et professionnelle sur le long terme. Bah, déjà une année. Et je voulais toujours partir à l'étranger. Et là, c'était le moment idéal parce que là, on n'en a pas la responsabilité. Pas vraiment comme si on est à l'école, on ne fait pas des études, on ne travaille pas. Donc là, on est assez libre pour faire ça. Et je voulais aller à l'étranger pour voir des autres cultures, pour voir un autre pays, pour voir un autre lieu déjà, pour être un peu loin de tout ce que j'en connais et pour voir comment je réagis et comment je me débrouille.
Mmh. Autre chose aussi certainement qui frappe, puisque là, Nathalie, toi, tu es allemande aussi, Laura, c'est la même chose, Eva, c'est la même chose. Là, vous intervenez en français, ici, sur le plateau de radio. Est-ce que ça suppose que quand on fait un volontariat, il y a une base de connaissances de la langue nécessaire qui vous permet après d'intervenir à la radio dans une langue étrangère? J'imagine pour quelqu'un qui sort de l'école, ce n'est pas forcément évident de tout de suite se confronter linguistiquement à l'altérité.
Oui, je dirais pas que c'est forcément nécessaire d'avoir un niveau très haut, mais il faut quand même parler la langue un peu parce que c'est assez difficile dans un pays étranger sans parler la langue. Et de travailler aussi dans une structure culturelle sans vraiment parler la langue. Mais oui, je dirais pas que c'est forcément nécessaire de pouvoir déjà parler très fluidement dès le début, parce que quand on est là dans le pays, on apprend mieux.
Mmh. Laura, comment ça se passe pour toi? Puisque toi, tu l'as déjà un peu dit, tu fais un volontariat franco-allemand des territoires, donc c'est entre des villes, dans le cas des jumelages. Est-ce que là, la connaissance de la langue est quelque chose de nécessaire ou est-ce que ça s'apprend sur place? Quelles sont les conditions pour faire un tel service civique, un tel volontariat franco-allemand?
Alors là, si je regarde en fait les gens qui font la même chose que moi, on a vraiment des niveaux très différents. Du coup, il y a aussi des gens qui ont fait ce service civique directement après le bac. Du coup, c'est vraiment le niveau du français ou de l'allemand à l'école. Mais aussi des gens qui ont déjà fait des études et du coup ça varie vraiment. Mais moi je dirais oui, il faut avoir des connaissances de langue, mais là aussi cette année de césure, ça permet aussi d'évaluer ces connaissances de langue.
Alors ce qui veut dire, ne vous laissez surtout pas décourager à postuler pour un volontariat franco-allemand si vous avez des bases en allemand sans forcément avoir un niveau au-delà du niveau scolaire, mais qui suffit amplement, vous êtes dans le pays, vous partez en Allemagne pour parfaire vos connaissances d'allemand sur place. Autre chose qui intéresserait certainement tous les jeunes intéressés par un tel service civique, quel est le statut exact? Tu en as déjà un peu parlé, Nathalie, et surtout, est-ce qu'on touche des indemnités? Comment c'est financé? Qu'est-ce qui vous permet de vivre pendant cette année? Je ne sais pas qui veut répondre de vous, prendre la parole.
Alors, pendant cette année de césure, on a en fait le statut de volontaire. En fait, on profite d'une carte volontaire pour montrer bien que, effectivement, on garde le statut de l'étudiant. Et ce qui concerne le financement, en fait, on a droit à une indemnité qui touche à peu près 470 euros. Mais aussi une prestation qui est payée par l'OFAJ, qui peut être aussi une aide au logement ou même, par exemple, pour l'enseignement supérieur et l'enseignement aux écoles, on a aussi droit à un logement, parce que ça pose aussi problème si on veut partir à l'étranger. Du coup, comment je fais pour avoir un logement? Mais là, on est soutenu. Et oui, ça c'est pour le financement de ce programme.
Alors peut-être pour nos auditeurs et auditrices, pour résumer un peu la chose, donc vous avez différentes formes pour vous engager dans une année de césure, notamment le service civique. Si vous faites un service civique classique avec donc l'agence du service civique en France, vous pouvez le faire à partir de 6 mois jusqu'à 12 mois. Si vous partez pour un service civique à l'international et par exemple entre la France et l'Allemagne, pour partir en Allemagne, un volontariat franco-allemand dans les différents domaines qu'a mentionné ma collègue Laura tout à l'heure, à la fois vous partez pour soit 10 mois, soit pour 12 mois, pour toute une année. Vous êtes encadré par des séminaires de formation qui sont proposés par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui couvre différents domaines, mais notamment tout ce qui englobe l'interculturel, en fait, ce que vous faites pendant cette année. Et ces séminaires peuvent vous permettre aussi de retrouver vos collègues en service civique des deux côtés, donc les jeunes Français partis en Allemagne, aussi bien que les jeunes Allemands partis en France, pour échanger sur les différents projets. Pour finir cette première partie, est-ce que Laura et Nathalie, vous pourriez peut-être mentionner un premier projet sur lequel vous travaillez dans votre volontariat ici sur place à Nantes avant d'en venir dans la deuxième, troisième, quatrième partie avec vous trois, un peu plus spécifiquement sur chaque profil de volontariat. Laura, que fait une jeune ambassadrice de Sabruk à Nantes en service civique ici à Nantes ?
Dans ce cadre-là, je vais peut-être parler d'un projet qui est un peu classique, qui en fait se reproduit chaque année, qui est le jury jeune, dont on a parlé déjà dans une des émissions radio. Mais il s'agit d'un projet où on invite les jeunes de Sarrebruck de venir à Nantes pour participer au festival universitaire allemand. Pour une semaine, alors on regarde des films, on a des activités franco-allemandes. Et en fait, la même chose se reproduit aussi à Sarrebruck, où on invite les jeunes de Nantes de venir à Sarrebruck pour le Max Ophüls Preis, pour aussi regarder des films, découvrir la ville jumelle.
Et Nathalie, de ton côté, est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Qu'est-ce que tu fais en tant que volontaire culturel franco-allemand dans ton année ici à Nantes ?
Moi, le projet que fait chaque année la volontaire culturelle à Nantes, c'est un peu lié à ce que fait Laura. C'est parce que nous, on prépare dans une équipe le Festival universitaire allemand, donc le Festival du film allemand à Nantes. C'est-à-dire qu'on fait la programmation, on fait le programme, on fait la communication avec les distributeurs, on fait un peu de tout. Donc voilà, c'est le grand projet de la volontaire culturelle à Nantes.
Merci beaucoup pour vos réactions pour cette première partie. Donc après la musique, on va donc en venir à en parler plus en détail des différentes missions. Et donc aujourd'hui avec vous trois, donc du volontariat culturel, du volontariat écologique et du volontariat franco-allemand des territoires. Mais ça sera après la musique.
Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer noch du. Zu Hause. Zu Hause bist meine Heimat, ich hab nur dich. Du bist zu Hause für immer und mich.
Hallo Nantes.
Hallo Nantes.
Sur Euradio Nantes.
Vous êtes donc toujours sur Euradio Nantes pour l'émission Hallo Nantes, du Centre culturel franco-allemand. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau avec mes trois collègues Laura Zella, Nathalie Ostendorf et Eva Fuchs pour vous parler du volontariat franco-allemand en service civique. Dans la première partie, on vous a présenté de manière générale un peu ce que c'est que ce dispositif. Et là, dans les trois parties qui suivent, on va entrer dans le vif du sujet avec les profils des trois collègues qui sont sur le plateau avec moi aujourd'hui, pour voir à quoi ressemble la mission en Allemagne pour les jeunes Français et Françaises qui souhaiteraient candidater pour une année de césure en Allemagne. Laura, toi, tu as le titre magnifique de jeune ambassadrice de Sarrebruck à Nantes. Donc, tu as aussi une homologue qui, elle, part de Nantes à Sarrebruck. Les ouvertures pour cette mission à Sarrebruck sont ouvertes. Qu'est-ce que c'est que ce volontariat franco-allemand des territoires en tant que jeune ambassadrice de Nantes à Sarrebruck ?
Le programme, en fait, ça veut dire lancer des projets dans, alors pour les jeunes de 16 à 25 ans, dans, ça peut être dans le domaine de la culture, le sport et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est un peu de faire découvrir le jumelage entre les deux villes. Du coup, là, la spécialité, on travaille dans un tandem. Du coup, ça veut dire un ou une Français, Française, part en Allemagne et un ou une Allemande part en France pour faire ce service civique. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de trouver des projets pour donner envie pour les jeunes de partir à l'étranger ou dans la ville jumelle même.
J'imagine que cela pourrait être difficile si on ne vient pas soi-même de Sarrebruck. Donc on s'imagine mal quelqu'un qui viendrait de Berlin faire le travail de jeune ambassadeur de Sarrebruck à Nantes. Donc faut-il bien connaître sa ville natale pour pouvoir faire ce service civique ?
C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de connaître sa ville et c'est une des conditions de ce service civique, de bien connaître sa ville pour aussi la faire découvrir aux autres.
Alors, là, tu parles de deux villes universitaires comme Nantes et Sarrebruck. Si on est étudiant dans une des deux villes, est-ce que ça permet aussi de formuler sa candidature ou est-ce qu'il faut vraiment être né, avoir grandi dans une de ces deux villes ?
Il ne faut pas forcément être né dans une des deux villes. Si on a fait aussi, par exemple, ses études dans cette ville, ça aussi, ça permet déjà de découvrir la ville et donner une approche aux autres.
Donc, avis à tous les étudiants de l'Université de Nantes, pour vous, cette mission pourrait être la bonne pour partir à Sarrebruck. Alors, pour entrer encore plus dans le vif du sujet, donc tu as dit donc volontariat franco-allemand des territoires, donc c'est une mission un peu spécifique, me paraît-il, par rapport aux autres volontariats. En quoi c'est spécifique ?
C'est spécifique parce que, en fait, nous ne sommes pas très nombreux, ce qu'on remarque pendant les séminaires de l'OFAGE, parce que nous sommes au total, cette année, 12 jeunes qui travaillent pour le jumelage, comme par exemple la ville de Sarrebruck et la ville de Nantes. Mais on a aussi des jeunes qui travaillent, par exemple, pour le jumelage entre la ville de Saarlouis et Saint-Nazaire, ou Clermont-Ferrand et Regensburg en Allemagne. Du coup, alors ça, c'est déjà une spécialité. Et après, c'est aussi que ce programme n'existe pas très longtemps. Alors, ce programme a été lancé en 2015. Et du coup, ça a été mis en place par l'AFCCRE et aussi avec le soutien de l'OFAGE. Et ce programme permet en fait de donner une dimension supplémentaire au contexte franco-allemand dans le cadre des jumelages.
Alors, Laura, si tu, maintenant, toi, tu as ton poste, tu es recrutée par la ville de Nantes, tu as ton bureau au centre culturel ici à Nantes. Comment ça se passe normalement ? Les bureaux des jeunes ambassadeurs, jeunes ambassadrices, normalement, se trouvent en mairie en Allemagne, en fait, auprès des services compétents pour le jumelage ?
C'est ça. Alors là, c'est vraiment une spécialité que moi, j'ai mon bureau au CCFA, mais en Allemagne, normalement, les jeunes ambassadeurs sont situés, le bureau se trouve dans les mairies, parce que là, ça permet en fait de travailler directement avec les villes. Et C'est juste une spécialité française.
Et on en a parlé tout à l'heure dans la première partie déjà. Qu'est-ce que ça suppose en termes de maîtrise de la langue si tu travailles avec les services compétents en mairie? Est-ce que la condition, la langue est un élément important, puisque là tu travailles avec une mairie qui forcément va travailler en allemand, du coup, puisque ça peut être un service consacré à l'étranger. Comment ça, cette condition, quelle est l'importance de la connaissance de la langue pour ton volontariat?
Pour le volontariat franco-allemand des territoires, on n'a pas forcément un niveau qui est demandé, mais c'est sûr que si on travaille avec les mairies, alors tout se passe en allemand, du coup c'est bien d'avoir déjà des connaissances de langue en français, mais, ou en allemand pour les Français. Mais bien évidemment, on progresse très très vite et du coup... C'est aussi la possibilité pour améliorer ses connaissances de langue.
Parlons peut-être plus concrètement des missions qui sont les missions de la personne qui fait ce volontariat. Que fait la personne en service civique comme volontaire, comme jeune ambassadeur, jeune ambassadrice de Nantes à Sarrebruck concrètement avec les jeunes et avec son homologue à Nantes dans le cadre de son année?
Dans le cadre de cette année, on a d'une part toujours les événements sur place. Alors par exemple, si on est jeune ambassadeur de Nantes à Sarrebruck, ça veut dire qu'on a aussi des projets comme par exemple un Stammtisch qui se produit en fait toutes les deux semaines, où on invite aussi les Allemands et les Français pour prendre un verre autour des discussions franco-allemandes. Mais on a aussi des projets qui se font en fait avec les deux jeunes ambassadeurs. Du coup, l'idée, c'est toujours de faire un petit brainstorming pour trouver des idées, comment on peut attirer des jeunes ou donner envie de découvrir la ville du partenaire. Et là, ce sont par exemple des projets comme le jury jeune, où là, par exemple, en mai, on a prévu de faire un concert de jazz. Ça veut dire qu'on a invité un groupe de musiciens de Sarrebruck de venir à Nantes pour faire un concert de jazz.
Mmh. Alors, quand tu parles de toutes ces actions-là, ça suppose aussi qu'il y a un budget pour faire toutes ces actions-là. Normalement, pour les jeunes en service civique, il n'y a pas forcément un budget qui va avec. Comment ça se passe dans ton cas?
Dans mon cas, c'est vraiment exceptionnel si on compare avec les autres volontaires. Sur le jumelage de la ville de Sarrebruck et la ville de Nantes, on a un budget. Du coup, on a aussi la possibilité de faire des projets qui coûtent de l'argent, comme par exemple le jury jeune, donner la possibilité des jeunes de venir à Sarrebruck ou de venir à Nantes sans déposer de l'argent. Et ça, c'est exceptionnel parce que les autres jumelages, c'est plutôt faire des voyages ou la venue des délégations. Et ça, c'est vraiment pas lié à un budget concret.
Alors maintenant, on dit toujours un ambassadeur, une ambassadrice est toujours là pour représenter son pays ou alors sa ville. Que dirais-tu à des jeunes Nantais qui réfléchissent à une mission de service civique? Pourquoi faire un service civique en tant que jeune ambassadeur ou jeune ambassadrice de Nantes à Sarrebruck? Dans la belle ville de Sarrebruck.
Alors la ville de Sarrebruck, c'est une petite ville, mais quand même, elle offre plein de possibilités. Si on compare par exemple sur le domaine de la culture, on a plein de théâtres, cinéma, musées, des galeries. Du coup, là, j'aime bien cette offre culturelle, mais aussi la vie étudiante. Alors, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à proposer pour les étudiants. Et ce que j'aime bien, en fait, sur cette mission, c'est qu'on garde toujours un peu le lien avec sa ville. Parce qu'en fait, pour chaque projet, l'idée, c'est bien évidemment aussi de présenter sa ville et de faire découvrir sa ville. Et du coup, si on prend par exemple l'exemple du jury jeune où on est avec des jeunes à Sarrebruck, bien évidemment, on fait des musées, on fait des tours de ville. Et ça aussi, c'est très sympa.
Peut-être juste un dernier mot. Tu disais aussi que la vie étudiante joue un rôle important aussi à Sarrebruck. Est-ce que pendant la mission de jeune ambassadrice ou jeune ambassadeur, il y a possibilité aussi de faire des projets en lien avec l'université? On sait qu'à Nantes, à Sarrebruck, on est dans deux villes universitaires avec beaucoup de jeunes étudiants. il peut y avoir des projets qui se font aussi avec le monde universitaire, sachant qu'en France, par exemple, beaucoup de candidatures se font par des personnes qui ont déjà fait une licence, qui sont pleines dans la vie étudiante. Est-ce que ça peut faire partie des missions ?
Oui, bien évidemment. Alors, il n'y a pas forcément un moment idéal pour faire ce service civique. Mais moi, par exemple, je l'ai fait après la licence. Et bien évidemment, l'idée de ce jumelage, c'est aussi de garder un peu les liens avec l'université. Du coup, aussi proposer peut-être un doctorat ou quelque chose comme ça, de venir à Nantes ou à Sarrebruck pour aussi parler d'un sujet qui peut être intéressant pour les jeunes de la ville jumelle. Et bien évidemment, c'est toujours, on aime bien garder le lien avec l'université.
Laura, merci beaucoup. On rappelle peut-être aussi que, comme tu l'as dit, ce volontariat permet vraiment de garder le contact avec sa ville d'origine. L'exemple classique qu'on pourrait peut-être donner, c'est que ta prédécesseur Lisa Fetza, qui a fait donc son service civique en tant que jeune ambassadrice de Sarrebruck à Nantes l'année dernière à Nantes, maintenant est repartie à Sarrebruck pour prendre un poste à l'université franco-allemande qui, elle, se situe là aussi à Sarrebruck. Merci beaucoup. On va revenir après la musique pour parler d'un volontariat plus spécifiquement culturel avec ma collègue Nathalie Ostendorf. À tout à l'heure.
Hallo Nantes.
Auf Euradio Nantes.
Vous êtes donc toujours sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. Mon nom est Martin Krechting et avec moi sur le plateau aujourd'hui mes trois collègues volontaires franco-allemands, puisqu'on va vous parler de ce programme, de ce dispositif, donc du volontariat franco-allemand. Dans la dernière partie, on avait parlé avec Laura Zeller, donc jeune ambassadrice de Sarrebruck à Nantes, dans le cadre d'un volontariat franco-allemand des territoires en service civique. Et Laura nous a expliqué justement en quoi ça consiste, cette mission. Dans cette troisième partie, on va parler avec ma collègue Nathalie Ostendorf, qui elle est volontaire culturelle franco-allemande. Et Nathalie, dans une première partie, on va peut-être demander qu'est-ce que c'est que ce volontariat culturel?
Oui, ça, en gros, c'est un volontariat qui s'effectue dans les structures culturelles, et ça peut être dans tous les domaines. C'est-à-dire, on a des centres culturels, on a des maisons de l'Europe, on a beaucoup de choses, et c'est plusieurs domaines. Ça peut être dans les relations franco-allemandes, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut aussi être des structures qui sont juste allemandes, liées à la culture. Par exemple, des musées qui n'ont pas de lien direct avec la France. Et aussi un peu de l'Union européenne, parce qu'on a aussi... En France et en Allemagne, il y a des structures d'accueil qui sont liées à ça, des maisons de l'Europe, Europa House.
Alors, Laura nous avait dit tout à l'heure que c'est un programme relativement jeune, le volontariat franco-allemand des territoires, et qu'il y a relativement peu de personnes. Comment c'est pour toi? Est-ce que c'est la même chose? C'est un programme très jeune avec peu de personnes finalement qui profitent de ce dispositif, ou c'est un programme plus ancien et avec plus de monde qui en profite?
Non, moi aussi, c'est assez récent. Ça consiste depuis 4 années. Et nous, comme groupe groupe de volontaires qui se rencontre 4 fois dans l'année pour les séminaires, on est la seule. Et comparé aux autres volontariats franco-allemands, par exemple le social ou l'écologique ou bien le volontariat dans les écoles, là il y a plusieurs groupes de séminaires et nous sommes la seule avec 16 Françaises et 17 Allemands.
Alors, tu nous as déjà expliqué dans la première partie pourquoi ton choix de faire une année de césure après ton bac. Est-ce que c'est le cas de la plupart des volontaires du côté français, du côté allemand, qui, comme toi, ont choisi de faire cette année de césure directement après le baccalauréat, après l'abitur?
Là, comme on a déjà touché dans la première partie, là, il faut vraiment distinguer entre les Françaises et les Allemands. Parce que les Allemands, c'est vrai que nous... La plupart, c'est des gens qui ont décidé de faire ça directement après le baccalauréat. Par contre, les Français, je crois qu'il y en a 2 qui l'ont fait après le bac, mais sinon, c'est que des gens qui ont déjà fait des études, qui ont déjà commencé des études, ou même des gens qui ont fait ça après le master.
Alors Nathalie, peut-être question difficile, je ne sais pas si on peut y répondre, mais est-ce qu'on a une explication à cette différence franco-allemande? Pourquoi du côté allemand, on fait ça souvent après le bac, et du côté français, pas toujours, mais souvent plus tard?
Je crois déjà que, comme le FSJ, le Freiwillige Sozialdienst, en Allemagne, c'est beaucoup plus reconnu, et ça existe depuis plus longtemps qu'en France. Là déjà, c'est plus l'habitude des jeunes de faire une année de césure, pas forcément à l'étranger, mais juste une année de césure. Et comme ça, c'est plus, je dirais, normal de faire ça, et aussi pour les jeunes. Et là, quand je regarde mon école, mon cas spécial, il y a déjà, je sais pas, au moins la moitié qui est partie après le baccalauréat, et je crois que... Non, je sais pas vraiment pourquoi c'est comme ça, parce que je comprends pas, parce que pour toutes les jeunes, ça peut être bien. Et je crois que les Français ont peut-être plus l'habitude de directement commencer les études, directement aller travailler.
Mais comme tu as dit, il y a un changement peut-être qui est en train de s'opérer avec cette possibilité, dans le cadre de Parcoursup, tout de suite de cocher l'année de césure pour pouvoir, avant même de commencer les études, faire son année de césure. Nathalie, si on part en Allemagne maintenant ensemble, et si on regarde un peu les différentes missions qui existent pour les jeunes Françaises et Français qui souhaiteraient faire cette année de césure. Alors, on a parlé avec Laura de ce poste de jeune ambassadrice de Nantes à Sarrebruck. J'ai cru comprendre qu'il y a aussi un volontariat culturel à Sarrebruck. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus?
Oui, c'est bien ça. Il y a une volontaire culturelle à Sarrebruck qui a même 2 structures d'accueil. Donc, sa mission est un peu séparée entre les deux. C'est le Saarländisches Künstlerhaus et la Stadtgalerie de Sarrebruck. Les deux sont un peu une sorte de galerie d'art, et là elle aide avec les expositions, la communication et un peu tout ça.
Et pour ce profil-là, j'imagine qu'il faut peut-être avoir déjà commencé des études, ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire?
Je crois pas que c'est forcément nécessaire. Je crois que c'est juste le cas parce que, comme on a dit, la plupart des Français ont déjà fait des études, mais je crois pas que c'est nécessaire.
Si ensuite on regarde l'Allemagne et ce volontariat culturel franco-allemand, est-ce que ça existe partout en Allemagne? Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples, en fait? Est-ce que c'est uniquement dans les grandes villes? Est-ce que ça peut être aussi dans les plus petites villes?
Non, c'est un peu tout. Dans le nord, il n'y a pas beaucoup, mais sinon, c'est un peu partout, et aussi dans les grandes villes et dans les petites, dans les vrais petits lieux. Par exemple, comme Lévis, on a Saarbrück, on a Karlsruhe, on a aussi Koblenz. Mm-hmm. Et pour les petits, il y a par exemple Bingen, que je ne crois pas que beaucoup de monde connaît. Mm-hmm. Et voilà.
Est-ce que tu pourrais peut-être parler encore en détail d'une ou deux autres missions en Allemagne? Donc là, tu as parlé en fait dans le domaine des galeries d'art, des musées à Saarbrück. Quelle autre mission existe pour ce volontariat culturel en Allemagne?
Là, il y a vraiment une grande variété. Par exemple, il y a aussi le Europa House à Bad Marienberg. Ça aussi, c'est un petit lieu, je crois. Et la volontaire qui est là, elle aide avec des séminaires pour les jeunes pour l'éducation sur l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle prépare des animations, elle prépare des petits jeux pour rendre un peu plus proche l'idée de l'Union européenne. Et elle fait aussi de la communication. Oui.
D'accord. Et tu as dit aussi qu'une des particularités de ce volontariat franco-allemand, c'est aussi que vous êtes accompagné par des séminaires. En quoi consistent ces séminaires-là et quelle est la plus-value pour toi? Tu as déjà participé maintenant en fait à deux premiers séminaires. Qu'est-ce que ça vous apporte? En quoi c'est une plus-value d'avoir à côté d'un service civique classique avec l'agence du service civique en France? Il n'y a pas de séminaire. Peut-être que tu peux en dire un peu plus.
Oui. Je crois que les séminaires, c'est vraiment très très bien que ça se passe comme ça. On a 4 séminaires en total qui durent à peu près chaque une semaine. Et on se rencontre avec les autres volontaires, c'est-à-dire déjà on prend une semaine de pause de ce qu'on fait dans la vie quotidienne, ce qui peut aussi être bien parce qu'on a la distance à ce qu'on fait, on peut réfléchir. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je trouve bien? Qu'est-ce que je trouve pas bien? Et on peut parler aussi aux tutrices, parce que c'est vrai que dans les structures d'accueil, on a aussi un tuteur ou une tutrice, mais aussi les responsables du projet auxquels on peut parler, qui sont pas sur lieu, qui ont un peu de distance pour regarder tout ça. Donc ça peut être bien. Et aussi juste prendre une pause et échanger sur les expériences avec les autres volontaires. Et je crois que les séminaires entre les volontariats différents sont aussi différents parce que, par exemple, j'ai discuté un peu avec les autres volontaires qui sont ici à Nantes, qui sont dans des domaines différents, qui font des autres choses que nous. Nous, par exemple, on fait beaucoup avec la culture. Par exemple, la dernière fois, on était à Villard-de-Lans, c'est un petit village à côté de Grenoble, et là, on a travaillé beaucoup sur la résistance et on a préparé des petites présentations de théâtre sur tout ça, donc on fait vraiment des choses culturelles, mais des choses qui sont aussi dans les séminaires, et je crois que ça, c'est dans tous les séminaires, c'est qu'on fait des unités tandem pour pratiquer la langue, parce qu'on a les Français et les Allemands qui sont au séminaire, et les séminaires ont lieu une fois en Allemagne, une fois en France, et ça change.
Donc si on veut résumer, en fait, on a l'impression que peut-être le frein au départ à l'étranger qui peut être parfois de se séparer de sa famille, de ses amis, c'est compensé en quelque sorte aussi par un encadrement à tous les niveaux. Donc vous avez l'encadrement à la fois dans la structure d'accueil, puis de par les tutrices ou tuteurs au niveau national pour les programmes, et en plus l'échange avec les collègues en fait, de l'autre pays.
Oui, forcément. Et voilà.
Peut-être qu'on peut parler aussi, pour le compléter un tout petit peu, revenir vers Laura. Laura, tu t'étais proposé de parler un peu aussi du volontariat franco-allemand dans le domaine social, pour donner un peu une idée ce que c'est et où ça peut se faire.
C'est ça. Comme j'ai déjà mentionné, en fait, c'est l'idée de l'OFAGE, c'est en fait de mettre les gens, les jeunes qui travaillent sur le jumelage avec les jeunes du social. Et du coup, le social en Allemagne, ça peut s'effectuer dans, par exemple, des crèches ou aussi des associations de jeunesse, mais aussi dans une maison de retraite et aussi des foyers qui hébergent en fait des réfugiés ou aussi des handicapés. Alors on a tout ce domaine du social qui est occupé.
Merci beaucoup Nathalie et Laura. Et donc dans notre dernier et quatrième volet, on va revenir et on va le faire en allemand avec Eva sur les différentes missions du volontariat écologique franco-allemand, mais ce sera directement après la musique.
Jawohl, ihr kennt die Leier. Immer das Gleiche mit diesem Dendemeier. Wenn ich mal wieder durchs Gelände eier und mich dabei als lebende Legende feier. Als Selbstläufer, als Einzelgänger und guten Abend brüll wie 100 Mainzelmänner. Ich bin kein Rapper, nur ein Bluesänger auf Abwegen. Bin kein Rebell, nur ein Fußgänger auf Radwegen. Bin kein hartnäckiger Wadenbeißer. Bin kein Freischwimmer, ich bin Bademeister. Ja, schau mir das Geschehen vom Beckenrand an, bis ich, sagen wir mal, zu checken anfange. Denn manche schwimmen mit, manche gegen den Strom. Doch ich frag, schwimmen wir noch oder leben wir schon? Ich bin durch damit, es hat sich ausgeschwommen. Könnte ich dafür endlich mal Applaus bekommen?
Es ist jetzt soweit.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm.
Endlich
bin ich angekommen.
Endlich
hab ich wieder Land gewonnen.
Endlich
nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Es ist jetzt soweit.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm.
Endlich
hab ich wieder Land gewonnen.
Endlich
bin ich angekommen.
Endlich
nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. In diesem Freibad, das sie Leben nennen, lernt man als Bademeister praktisch jeden kennen. Bevorzugte Stile sind Brust oder Kraul, doch auch dafür sind viele zu lustlos und faul. Machen die Boje, lassen sich treiben, würden bis sie schrumpelig sind, im Nassen drin bleiben. Ich hol sie gern raus, doch kann das nicht entscheiden. Außerdem kommt noch dazu, kann ich Wasser nicht leiden. Und sollte ich doch einmal ins Becken springen, dann nur, um dich aus dem Schlamassel wegzubringen. Ich hab unterm rechten Arm Rettungsring und mit dem linken mach ich einen auf Schmetterling. Egal wie fett es klingt, es ist eine starke Droge. Und davon loszukommen bleibt eine harte Probe. Ich schwimm nicht mehr, check meine Garderobe. Da findest du alles, nur keine Badehose. Es ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm.
Endlich
bin ich angekommen.
Endlich
hab ich wieder Land gewonnen.
Endlich
nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Es ist jetzt soweit.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm.
Endlich
hab ich wieder Land gewonnen.
Endlich
bin ich angekommen.
Endlich
nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Ja, ich schwimmte, schwamm und schwamm. Bin endlich angekommen. Endlich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Hansen und Kowalski sind am Start. Digi Dendemüller hat die Tracks start. Ich frag euch Leute, was geht ab? Seid ihr da? Ja, ja, ja. Man könnte meinen, ich hätt's erst gerade entdeckt. Doch Chlorwasser hat immer schon so fade geschmeckt. Ich sitz auf meinem Turm, hab die Lage gecheckt. Und fühl mich damit wohl wie die Made im Speck. Ich sag es direkt, auch ich hing im Wasser rum. Es klingt unfassbar dumm, doch bestimmt ist das der Grund, dass mir die Sache heute stinkt wie nasser Hund. Ich bin endlich nicht Schwimmer, chicka-ching, drassas rum. Es ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm.
Endlich
bin ich angekommen.
Endlich
hab ich wieder Land gewonnen.
Endlich
nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Es ist jetzt soweit.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm.
Endlich
hab ich wieder Land gewonnen.
Endlich
bin ich angekommen.
Endlich
nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Hallo Nantes
sur Euradio Nantes.
Vous êtes donc toujours sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. Nous avons parlé aujourd'hui nous sommes en train de parler aujourd'hui d'un dispositif destiné notamment aux jeunes de 18 à 25 ans, c'est le volontariat franco-allemand. Dans différents domaines, aujourd'hui avec moi sur le plateau, il y a mes collègues Laura Zella, jeune ambassadrice de Saarbrück à Nantes, Nathalie Ostendorf, volontaire culturelle franco-allemande. Et aussi notre collègue volontaire écologique franco-allemande, Eva Fuchs. Und Eva, wir werden das Ganze jetzt auf Deutsch bestreiten für den letzten Teil und mit dir ein bisschen über das den Freiwilligendienst im Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit zu sprechen. Vielleicht kannst du uns kurz vorstellen, worum geht es genau bei dieser Art des Freiwilligendienstes?
Also dieser Freiwilligendienst richtet sich an Jugendliche, die sich quasi in die grüne Richtung interessieren. Also sei es eben Naturschutz, in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, also oder in der Umweltpädagogik, sowie auch in NGOs oder in der Energierichtung. Aber ganz neu gibt es jetzt auch eben die alternative Richtung.
Heißt das jetzt genau, dass man schon ein Interesse mitbringen muss? Oder braucht man eine Vorbildung, um sowas zu machen? Oder kann sich eigentlich jeder bewerben, egal welches Profil er hat, der sich einfach für diese Themen interessiert?
Also nein, also man braucht keine Vorbildung. Es ist einfach wichtig, Interesse und Motivation für den Freiwilligendienst mitzubringen.
Mhm. Jetzt ist es ja genau das Gleiche, die Frage vielleicht wie vorher, das ist ein deutsch-französischer Freiwilligendienst. Weißt du, wie lange es den schon gibt und wie viel seid ihr eigentlich insgesamt? Genauso ähnlich, relativ wenige wie bei Laura oder bei Nathalie oder doch zahlreicher?
Also den gibt es schon seit 2007 und auf beiden Seiten, also Freiwillige in Deutschland und in Frankreich, gibt es ungefähr auf beiden Seiten eben 40 Stellen, also insgesamt 80. Es gibt zwei Gruppen quasi, die werden dann in Zweitgruppen aufgeteilt.
Wie ist das denn jetzt mit den Missionen? Du hast selbst gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, in denen man denn nachher eingesetzt wird. Diese 80 Personen teilen sich ungefähr so Hälfte-Hälfte auf den Bereich Umweltpädagogik und eher die praktischen Aufgaben. Oder wie ist das verteilt?
Also man stellt fest, dass es in Frankreich viele Stellen in der Landwirtschaft gibt, aber auch einige Stellen so in kulturellen Einrichtungen. In Deutschland ist es viel variabler. Also da gibt es echt alles Mögliche, dass man kann sich wirklich spezialisieren. Also und genau.
Vielleicht kannst du uns einmal kurz vorstellen, so ein paar Missionen, die es in Deutschland gibt. Einfach welche Einsatzstellen gibt es und was machen die Freiwilligen vor Ort in diesen Einsatzstellen?
Also ein ganz klassisches Beispiel für Deutschland ist der Naturschutz. Da bietet sich an, ein Freiwilligendienst, eben in Trier zu machen, bei NABU. Es gibt zwei Aufgaben, eben einmal im eine Weltladen zu arbeiten und den zweiten Teil verbringt die Freiwillige momentan eben bei NABU. Es geht klassisch um Vogelschutz, um Naturschutzaufgaben, also es ist eher praktisch, genau.
Wäre das vergleichbar mit dem, was die LPO zum Beispiel macht?
Ja, das kann man.
In Frankreich, wo dann es ja auch um Vogelschutz zum Beispiel geht?
Genau.
Okay. Was gibt es noch für andere Missionen in Deutschland?
Es gibt auch noch eine Fuchsfarm in Erfurt. Das ist ein Haus, die pädagogische Aktivitäten für junge Erwachsene, für Kinder, für Familien anbieten. Es gibt zum Beispiel einen Garten, da werden Aktivitäten angeboten, gemeinsam Gemüse gepflanzt, ganz klassische Dinge. Es muss auch Unkraut gejätet werden, gesät, alles Mögliche. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Wald, in der dann quasi wirklich naturschutzfachliche Wissen auch vermittelt wird. Natürlich immer spielerisch. Es ist nicht wie in der Schule, es ist wirklich Learning by Doing oft. Also ganz aktiv.
Da stellt man sich dann auch vor, wenn man sowas machen will in Deutschland, man geht als Franzose nach Deutschland, dann braucht man gewisse Deutschkenntnisse. Oder geht das auch sozusagen mit relativ geringen Kenntnissen, die dann einfach vor Ort erworben werden?
Das geht auch mit geringen Sprachkenntnissen. Und seit letztem Jahr gibt es auch das Angebot eben eines Sprachkurses. Der geht für eine Woche. Es wird wirklich die Basics vermittelt. Genau, also für offen für alle. Also wirklich, da zählt wirklich das Interesse und das reicht dann eigentlich schon.
Eva, vielleicht können wir auch noch mal kurz auf das schauen, was du hier in Nantes machst. Das ist ja vielleicht auch interessant. Du bist jetzt hier im Bereich eher Umweltpädagogik, Umweltbildung tätig. Wenn du mal ein Projekt vorstellen möchtest, an dem du gerade hier arbeitest, was wäre das?
Also ich habe Kontakt aufgenommen mit einem College in Nancy. Ich werde jetzt die Schüler in der Troisième begleiten. Das Thema ist eine Pflanzaktion auf einer 1 Hektar großen Fläche. Es soll also die grüne Lunge werden. Nebendran ist gleich ein Baugebiet ausgeschrieben. Das heißt, hier wird aktiv für ein bisschen Grün in der Stadt gesorgt und das mit Hilfe der Schüler. Also die Schüler werden aktiv Bodenproben nehmen. Sie werden die Zeigerpflanzen kennenlernen. Welche Vorteile hat die Biodiversität? Also
nicht nur für die Natur, sondern auch für den Menschen. Also das hat auch einen gesundheitlichen Faktor. Gleichzeitig geht es aber auch um ästhetische Werte. Also wie schaut ein Park aus, wo ich mich wohlfühle? Also es wird mit Baumarten gespielt, mit Sträuchern gespielt. Also es ist echt groß, das Projekt. Und gleichzeitig werden die Schüler auch einen Blog auf Deutsch dieses Projekt schreiben und werden dadurch auch die deutsche Kultur und die vor allem viele deutsche Fachbegriffe kennenlernen über dieses Projekt.
Eva, jetzt wäre bei dir natürlich auch noch die Frage, wie bei den anderen, warum hast du dich denn letztes Jahr, was hat dich dazu bewogen, dich für so einen Freiwilligendienst hier in Frankreich zu bewerben? Und das gilt ja dann wahrscheinlich auch spiegelverkehrt, könnten das Argumente sein, für junge Franzosen sich zu entscheiden, einen solchen Freiwilligendienst in Deutschland zu machen?
Also ich bin nicht so den klassischen deutschen Weg gegangen. Ich habe erst mal ein Studium in der Forstwirtschaft beendet, mit dem Bachelor. Und danach wollte ich einfach noch mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Also gerade, man ist nicht ganz alleine, man hat einen Tutor, man bekommt Hilfe. Klar, man ist verantwortlich für seine Projekte, aber man ist nicht alleine. Also es ist noch nicht der wahre Ernst des Arbeitslebens. Und warum im Ausland? Also ich hätte das ja auch in Deutschland machen können. Das Ausland bietet halt nochmal den Vorteil, man kann eine Sprache gleichzeitig dazu lernen und man erweitert einfach seinen Horizont nochmal. Also kulturell einfach in alle Richtungen und genau.
Noch eine ganz andere Frage jetzt, vielleicht auch die Nathalie vorhin schon beantwortet. Es gibt ja auch Austausch zwischen den Franzosen, die in Deutschland sind, und zwischen den Deutschen, die in Frankreich sind. Wie läuft das bei euch? Es gibt ja auch dieses Programm Ökiglück, das ist relativ was Besonderes, das gibt es nicht in allen Volontariatsprogrammen. Was versteckt sich da genau hinter?
Also das ist ein super tolles Programm. Es gibt die Möglichkeit, eben in andere Stellen reinzuschnuppern für eine Woche. Das heißt, ich werde das zum Beispiel machen. Ich werde eine Woche nach Trier fahren, eben um bei NABU mitzuarbeiten. Der Vorteil ist, dass es gleichzeitig die Freiwillige, die bei NABU arbeitet, auch nach Nord kommen kann. Also darf. Das ist quasi ein Austausch. Also wir sind eine Woche gemeinsam dann in Nantes und eine Woche gemeinsam in Trier.
Wunderbar. Vielen Dank auch dir, Eva. Ich denke, was wir machen, ist vielleicht zum Abschluss noch eine ganz kurze Runde, um nochmal zu fragen. Ihr seid jetzt alle 6 Monate, das heißt, ihr habt die Hälfte eures Freiwilligendienstes hinter euch. Im Moment sind die Bewerbungen gerade offen für die Franzosen. Um nochmal einmal kurz zu ergänzen, bei euch nach 6 Monaten, wenn ihr Bilanz zieht, was sind denn die Gründe, einen Freiwilligendienst zu absolvieren? Nathalie, est-ce que tu veux commencer?
Ja, also ich glaube, es gibt fast nur Gründe dafür. Es ist eigentlich einfacher zu fragen, warum man es nicht tun sollte. Also es ist einfach so ein Geschenk, was einem gegeben wird. Und wenn man es nicht nimmt, dann ist man eigentlich selber schuld. Denn es gibt einem so viel. Man geht in ein anderes Land, man lernt neue Leute kennen, man ist mal komplett auf sich alleine gestellt, was vor allem wie ich jetzt nach dem Abi echt eine tolle Situation ist. Und also man nimmt eigentlich nur Sachen daraus mit, man lernt die Sprache, man lernt eine andere Kultur, man lernt auch sehr viel über seine eigene Kultur, was einem vorher nicht bewusst war. Man lernt neue Leute kennen, Leute, die man sonst nicht kennengelernt hätte, und ja, es gibt eigentlich nur Gründe, die dafür sprechen.
Eva, aus deiner Sicht, nach diesen 6 Monaten, nach den ersten 6 Monaten?
Dadurch, dass es ja ich jetzt mit meinem Studium ja schon ein bisschen weiter bin, ist das für mich wirklich so, wie gehe ich alleine ein Projekt an? Also wirklich, man sammelt Arbeitserfahrungen, die einen nur reicher machen und stärker. Also ja, man weiß, wie man damit umgehen muss, man weiß, wie das Zeitmanagement abläuft, man weiß, an das und das muss ich alles denken. Man hat einfach ja ein Gefühl mehr für die Arbeit und man ist nicht gleich so geschockt vielleicht, wenn man dann wirklich anfängt zu arbeiten.
Und Laura, zum Abschluss.
Ja, also ich kann mich da Eva eigentlich nur anschließen, dass es wirklich, also ich bin ja auch in der Studiensituation und einfach, ja, dass es so eine erste Berufserfahrung gibt und man aber dann auch auswählen kann, welche Interessen man hat. Also man sieht ja, wie verschieden auch einfach die Freiwilligendienste sein können, ob man sich jetzt eher im Kulturbereich sieht oder wie ich jetzt eher in die Richtung, ja, Städtepartnerschaft, und da einfach auch sagen, okay, man lernt immer super viel dazu, auch Sachen, die nicht gut laufen, wie geht man damit um, und ich glaube, das sind einfach auch Sachen, die einen persönlich weiterbringen, und deshalb ist das Jahr wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die man nur empfehlen kann.
un très très beau mot de la fin. Mais avant de finir, peut-être Nathalie, une annonce qu'on a oubliée, puisque pour en savoir plus sur l'émission du volontariat culturel franco-allemand, tu as préparé une exposition d'émission en Allemagne qu'on pourra voir où et quand.
Oui, effectivement, j'ai préparé une exposition avec qui se focalise un peu sur l'émission en Allemagne et avec des témoignages des volontaires actuels, de mes collègues qui sont là en ce moment et qui expliquent un peu pourquoi ils font ça et aussi ce qu'ils font. Et ça aura lieu à partir de début mars au CCFA à Nantes.
Merci beaucoup pour vos témoignages et je pense que vous êtes là aussi pour répondre à des questions de nos auditrices, nos auditeurs qui s'intéresseraient à partir en Allemagne pour effectuer un service civique. Donc je vous rappelle, si vous vous intéressez au volontariat écologique, n'hésitez pas à contacter EFAFUX, au centre culturel franco-allemand. Si c'est le domaine culturel qui vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à venir voir Nathalie Ostendorf au CCFA. Et pour ce qui est du jumelage entre les villes de Nantes et de Saarbrück et de l'échange de jeunes, Laura Zella est à votre écoute également au Centre culturel franco-allemand. Merci pour votre écoute. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Hallo Nantes au mois de mars. Merci beaucoup, à bientôt.
Radio Nantes et le Centre culturel franco-allemand vous ont présenté Hallo Nantes. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur euradio.fr.
Euradio Nantes und das Deutsch-Französische Kulturzentrum präsentierten Ihnen Hallo Nantes. Wollen Sie mehr wissen? Gehen Sie auf euradio.fr.